L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore une fois aujourd'hui autour de la parole de Dieu avec une invitée spéciale, Marie Perpétue Moukoulou. Bonjour sœur.
Bonjour Raphaël.
Merci pour ta présence, merci d'avoir répondu à cette invitation, que le Seigneur te bénisse grandement pour cela.
Merci beaucoup, c'est à moi de te remercier.
Alors, nous allons partager aujourd'hui sur un nouveau thème qui est le disciple et la souffrance. C'est un enseignement tiré du livre que tu as écrit en collaboration avec le révérend pasteur Sita Luemba. Le nom de ce livre est « La formation des disciples ». Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter tous à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole, pour entendre ta servante sur ce thème, le disciple et la souffrance. Utilise-la, Seigneur, oins-la, que ce message touche des millions d'hommes et de femmes. Combien exactement, nous ne savons pas. Mais nous savons une chose, que quand tu ne parles pas en vain. Utilise ta servante aujourd'hui. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Marie Perpétue, oui. Perpétue ma grande sœur, merci d'avoir répondu à cette invitation. Tu peux pas savoir comment je déborde de joie à l'idée de te recevoir dans ce studio jeunesse pour parler de ce sujet, le disciple et la souffrance. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur par rapport à cela?
Qu'est-ce que le Seigneur m'a mis à cœur par rapport à cela? J'aimerais parler d'abord de ce que le Seigneur m'a mis à cœur par rapport aux disciples. Tu sais, en tant que chrétien, aujourd'hui, de façon générale, nous sommes plus focalisés à nous repentir, donc à abandonner nos péchés. Nous nous disons chrétiens parce que nous avons dit non à la vie du péché pour suivre Jésus-Christ. Mais alors que nous oublions que Jésus-Christ, avant de rentrer au Père, a dit à ses disciples de faire de toutes les nations ses disciples. C'est-à-dire, en sus de la volonté, en sus de la décision, de la repentance, nous avons tout intérêt à devenir disciples de Jésus-Christ et à faire de toutes les nations des disciples du Christ et non pas seulement des chrétiens repentants. C'est par rapport aux disciples qu'on va définir après. Et pourquoi la souffrance? Parce que généralement, nous remarquons que la souffrance n'épargne pas les chrétiens. La souffrance n'épargne pas les disciples aussi. Alors, c'est toujours bien de savoir c'est quoi la souffrance, pourquoi la souffrance, quels sont les avantages qu'on peut tirer de la souffrance et en quoi ça peut nous aider à ressembler à l'image du Christ, nous, en tant que disciples. C'est pourquoi la souffrance et les disciples a un sens quand même positif, à mon humble avis, par rapport à la vie chrétienne.
Je trouve que c'est un sujet qui est très important, parce que, un peu comme tu l'as dit, tu sais, beaucoup de gens aujourd'hui pensent que, bon, c'est vrai, quand on vient à Christ, tout devient rose, il n'y a plus de problème, tout marche normalement. Mmh. Alors que dans la marche chrétienne, on est des fois buté à des difficultés, on est des fois buté à des obstacles, à des combats, et des fois même des rejets de la part de certains membres de nos familles. Alors, des fois, les personnes commencent à se retourner et se poser des questions. Ils disent, mais c'est ça le christianisme, c'est ça la vie avec Christ. Et évidemment, quand ceux qui ne comprennent pas cela sont butés à ce genre de choses, il est très facile d'abandonner Christ parce qu'ils se disent, on m'a menti, on m'a trompé. Alors que Christ avait dit, puisqu'ils ont fait cela au bois vert, qu'est-ce qu'ils vont faire du bois sec?
Oui, bien sûr. Tu vois que Jésus, il était très clair à l'égard de ses apôtres et à l'égard de l'Église que nous sommes, parce que toute la Bible nous parle du point de vue du Seigneur sur la marche chrétienne. Jésus lui-même a souffert. Il a dit que les disciples n'étaient pas plus grands que son maître, comme tu viens de le dire. Si on a fait ça à lui, nous devrons nous préparer à subir beaucoup plus de souffrances. Mais heureusement pour nous, il a dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Jésus qui nous soutient. Mais c'est mieux de comprendre que les souffrances, que nous ne sommes pas épargnés de souffrances, aussi de savoir comment réagir face aux souffrances. Parce que tu vois, un chrétien juste repentant n'a pas la grâce de lutter contre les souffrances de la même façon qu'un disciple qui a des racines plus ou moins solidifiées en Christ, qui s'est déjà préparé par rapport aux souffrances à venir.
Alors, la question qu'on devrait commencer à te poser, Perpétue, selon toi, c'est quoi un disciple?
Alors, selon moi, un disciple...
Ou selon la Bible, bien sûr, parce que nous traitons que des sujets en fonction de la Bible. Ta compréhension du disciple selon la Bible est laquelle?
Oui, merci. Mon point de vue selon la Bible, un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est un apprenti, c'est un étudiant. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'est engagé à rester auprès de quelqu'un qu'il appelle maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui veut copier la vie de son maître. C'est-à-dire, un disciple, avant de s'engager à suivre le maître, il a vu le maître vivre, il a apprécié la vie du maître, il aimerait vivre comme vit son maître. Il s'engage à rester à ses pieds, à apprendre comment vit le maître, comment réagit le maître face à des circonstances multiples et à s'identifier à son maître, à perpétuer la vie du maître en quelque sorte.
Il y a un verset dont tu fais référence dans le livre La formation des disciples, dans Actes 11, verset 26, je vais lire. L'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples de Christ furent pour la première fois appelés des chrétiens dans la communauté d'Antioche. Un disciple, tu es élève. Donc on peut être élève de plusieurs personnes. On peut retrouver différents types de disciples. Mais pour nous les chrétiens, le disciple est celui qui a pour seul maître ou seul professeur la personne de Jésus-Christ.
Oui. Voyez, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Paul prend Jésus comme modèle et nous invite à suivre son modèle qui n'est pas le sien, en fait, qui est le modèle du Christ. Pour nous, nous sommes disciples du Christ. Nous voulons vivre comme Christ a vécu. En étant ici sur terre, c'est vrai qu'il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Alors nous prenons plus l'image du Christ en tant que 100% homme. Il a été tenté de toute façon. Il a surmonté à toute cette tentation sans péché une seule fois. Et ici nous voyons le chrétien d'Antioche, parce que jusque-là les chrétiens n'étaient pas encore appelés disciples. Nous voyons le rythme, le style de vie de ces chrétiens ont fait que ceux qui ont vu vivre Jésus-Christ, ceux qui ont connu la marche de vie du Christ, ont vu en ces chrétiens d'Antioche les modèles typiques du Christ. Alors, ils ont appelé ces chrétiens, ils ont appelé ces croyants à l'époque des chrétiens, donc des saints. Et tu sais que toute la vie chrétienne nous appelle à ressembler au Christ. Et ils étaient vraiment avancés vers leur marche à la ressemblance du Christ. C'est pourquoi ils ont été appelés chrétiens. Alors nous aussi aujourd'hui, on nous appelle chrétiens, nous nous appelons chrétiens. Nous sommes censés être disciples du Christ.
Tout à fait. Écoute ce que tu écris encore. Permets-moi de le lire de cette manière-là. Un disciple... C'est quelqu'un qui s'est engagé à apprendre les enseignements de son maître et à les pratiquer dans le but de vivre comme son maître. Jésus dit dans Jean 15, verset 12, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Verset 14, « Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je... Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Donc, un disciple, on l'a dit, c'est un élève, c'est quelqu'un qui vit aux enseignes, qui vit les enseignements auprès de quelqu'un, mais c'est aussi quelqu'un qui les met en pratique. Et Jésus nous dit, un disciple, c'est celui qui écoute son commandement. Quel est son commandement? C'est d'aimer, c'est de s'aimer les uns les autres, et il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là.
Oui, merci beaucoup. Et tu vois que c'est là les résumés des résumés de toute la loi et de tout le prophète. N'est-ce pas? Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Là, je suis dans Matthieu 36.
Matthieu 22, verset 36.
26, je peux aller jusqu'au verset 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée.
Ouais.
Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi, tous les prophètes. Il n'y a pas un autre commandement que ceux-là pour qu'on puisse reconnaître un disciple de Jésus.
Exactement.
Tu vois, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plusieurs communautés qui se prétendent être des chrétiens. Chrétiens de ceci, chrétiens de cela, chrétiens... Mais Jésus dit, ces choses-là sont sans importance. Parce que le vrai disciple de Christ, c'est celui qui met en pratique les commandements de Dieu. Ça me fait penser à une certaine communauté. On ne va pas citer les noms, on ne cite pas les noms des communautés, où c'est écrit « Église de Jésus-Christ par tel, son envoyé spécial, tel. » Mais quand on étudie les enseignements de cette communauté ou de ce genre de communauté, on se rend compte que Jésus-Christ n'est pas le centre de cette communauté. Jésus dit « Vous reconnaîtrez mes disciples, ceux qui marchent avec moi, et l'amour qu'ils ont envers le Père. » Or, si une communauté n'a pas Christ comme sauveur et seigneur personnel, il est impossible que dans cette communauté-là, on retrouve l'amour de Dieu. Il est impossible qu'on retrouve l'amour du prochain en plus grand nombre. Parce qu'en fait, le centre de cet amour, ce qui donne cette vie à cette, ce qui propulse cet amour, n'est pas dedans. Il se retrouve à l'extérieur. Tu dis, si quelqu'un, un disciple, c'est quelqu'un qui s'est engagé à prendre les enseignements de son maître et à les pratiquer dans le but de vivre comme son maître. Si on est chrétien, on pratique l'amour pour vivre comme Jésus-Christ.
Exactement. Nous ne pouvons pas pratiquer l'amour vrai, selon Jésus, si nous n'avons pas Jésus comme seul Seigneur et maître. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu est amour. Dieu est amour.
Tout à fait.
1 Corinthiens 13, nous pouvons lire tous les chapitres, on ne va pas les lire, nous fait voir que nous pouvons tout avoir dans ce monde, mais si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas de valeur spirituelle, si vous me permettez les termes. Et que nous pouvons avoir tout le don spirituel, mais l'amour, c'est le meilleur de cadeaux qu'on peut avoir. C'est le meilleur de dons qu'on peut avoir. Le verset 13 du chapitre 13 du 1 Corinthiens nous dit, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, c'est donc l'amour. Nous disons que tout passera, mais l'amour seul restera éternellement. » Au fait, l'amour, c'est Dieu lui-même.
Tout à fait.
Tu ne peux pas arriver à aimer toi-même si tu n'aimes pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas, qui ont commis des péchés et ces péchés ont fait qu'ils s'accusent eux-mêmes, qu'ils se culpabilisent eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Il y a des gens qui ne s'apprécient pas, qui n'aiment pas la façon dont Dieu les a créés, ils ne s'aiment pas du tout. Il y a des gens dont le poste qu'ils occupent ne les intéresse pas, ils ne s'aiment pas. Mais quelqu'un qui a Jésus dans sa vie, quelqu'un qui a l'amour dans sa vie, quelqu'un pour qui l'amour est le seigneur de sa vie, quelqu'un pour qui l'amour prend la première place, la place fondamentale de sa vie, quelqu'un qui a laissé l'amour, nous parlons du disciple, grandir en lui au point d'occuper la majeure partie de sa vie, quelqu'un qui est comblé d'amour aura la grâce d'avoir cet amour porté du fruit en soi-même. Et quand cet amour va déborder de cette personne, le prochain pourra bénéficier de cet amour. Alors cet amour-là, c'est Dieu. Cet amour ne prend place, ne s'enracine réellement en nous. Que si nous l'aimons, cet amour, nous l'aimons de tout nos cœurs, c'est-à-dire que tout en moi vibre la chaleur de cet amour-là. Dans mes pensées, j'ai des pensées qui tournent autour de cet amour, qui sont tamisées par l'amour. Je ne pense pas à ce qui est contraire à l'amour. Et de toutes mes forces, je dépense mon énergie, la totalité de l'énergie que j'ai pour créer de l'amour, en fait, pour extérioriser l'amour qui est rempli en moi. Et de toute mon âme, tu sais, l'âme, c'est le centre de nos émotions, c'est le centre de nos sentiments. Alors, si j'ai des émotions qui partent de l'amour, la Bible dit que ce qui suit, c'est ce qui sort de l'homme. Et si ce qui sort de moi, c'est l'amour, alors ça ne peut pas suer.
Tout à fait. Écoute, tu ajoutes ceci par rapport toujours aux disciples. Tu dis, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui se reconnaît esclave de Jésus et qui pratique la parole de Dieu dans le but de se laisser vivre, de laisser vivre Jésus à travers sa vie. J'aimerais que tu expliques un peu plus ce que tu as écrit par là.
Je viens de dire que dans les livres, nous avons dit que les disciples étaient esclaves de son maître.
Tu as dit d'abord, tu écris d'abord, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, virgule, qui se reconnaît esclave de Jésus et qui pratique la parole de Dieu dans le but de laisser vivre Jésus à travers de sa vie. C'est comme si tu disais qu'un disciple, premièrement, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui est l'esclave de Jésus. Et troisièmement, c'est quelqu'un qui pratique la parole de Dieu. Et les trois ont pour but de laisser vivre Jésus-Christ au travers de nous. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus qu'est-ce que tu entends par né de nouveau, esclave de Jésus, mettre en pratique la parole de Dieu, mettre en pratique la Bible?
Merci beaucoup. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, un jour, s'est rendu compte qu'il était pécheur, donc éloigné de la grâce de Dieu. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte que Dieu a créé le monde pur, saint, l'homme, Adam et Ève, à son image, à sa ressemblance, sans péché. Et la personne reconnaît ce que la Bible nous dit dans Genèse 3, la chute de l'homme, donc la chute de Adam et Ève. Par Adam et Ève, par le premier péché, l'homme, la nature humaine, est devenue pécheresse. Alors cette personne reconnaît que de par sa nature humaine pécheresse, elle est incapable de plaire au Seigneur. Et la personne reconnaît aussi que Dieu, connaissant cela, a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, 100% Dieu, 100% homme, ici sur terre, pour porter la peine, disons, les conséquences du péché. Il s'est fait pécheur pour nous sauver du pouvoir du péché. Alors cette personne crie au Seigneur pour dire, « Seul, je ne peux pas venir à toi. Je reconnais que Jésus est mort pour me sauver du péché. Je lui donne ma vie pécheresse. Je reçois la vie de Christ Alors, comme c'est la vie du Christ que je reçois en moi, je reconnais que ma vie pécheresse, c'est celle que Christ a clouée à la croix de Golgotha. Donc, Christ, elle, en quelque sorte, je suis esclave du Christ. La vraie, la vie que j'ai en moi, c'est la vie du Christ. Alors, l'esclavage dont je parle ici est différent de l'esclavage humain. La Bible nous dit, celui qui pêche est esclave du péché. Alors, si nous marchons conformément à la parole de Dieu, nous sommes esclaves du Seigneur. Mais, Dieu, nous sommes esclaves du Seigneur, non pas comme esclaves qui portent le fardeau, esclaves qu'on est en train de torturer. La Bible nous dit, apportez-moi vos fardeaux. Je vous donne le mien qui est léger. Nous sommes des esclaves privilégiés. Nous apportons au Christ notre fardeau, le péché qui nous écroule, qui nous terrifie. Et il nous a sauvés de ces péchés. Donc, il est mon Seigneur parce que la vie que je porte n'est pas ma vie, mais c'est sa vie. Il est mon Seigneur parce qu'effectivement, c'est lui qui est venu me sauver de ce pouvoir du péché. Donc, je suis né de nouveau quand je renonce à ma vie passée en acceptant que Christ l'a cloué à la croix et j'accepte la vie du Christ et j'accepte de devenir son esclave, celui qui porte sa vie. Alors, en acceptant Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, je laisse vivre en moi. Pourquoi j'ai dit, dans le but de laisser vivre Christ à travers sa vie. Donc, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'accepte de porter la vie du Christ en moi. Moi, je suis un être humain pécheur, alors je dois fournir aussi des efforts pour que la vie de Christ, petit à petit, devienne pleine en travaillant sur ma nature pécheresse qui ne va pas mourir totalement. Je vais lutter pour que la vie du Christ puisse s'extérioriser librement à travers moi.
D'où l'image que Paul dit, que l'image de Christ en nous, en fait, nous devenons des ambassadeurs de
exact.
Christ. Nous laissons Christ prendre place en nous. En fait, on te voit toi, Perpétue, on me voit moi, Raph, mais nous ne sommes plus nous-mêmes, mais nous représentons l'image du roi des rois et seigneur des seigneurs. Et alors, quand tu dis maintenant, le disciple est celui qui pratique la parole de Dieu. Comment tu comprends ça? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner?
Alors, dans ce cas, nous allons rentrer dans le verset d'amour que nous venons de dire, parce que la parole de Dieu est résumée dans ce verset.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Matthieu 22, oui. Nous devons aimer Dieu totalement, que ce soit nos pensées, que ce soit tous nos efforts que nous fournissons du dedans de nos cœurs, nous devons aussi aimer notre prochain. Alors, un disciple, c'est celui qui vit ça. C'est celui qui aime Dieu. C'est celui qui a donné son cœur, le centre de ses émotions, de ses sentiments au Seigneur. C'est celui qui, avant de pratiquer quoi que ce soit, avant de poser n'importe quel acte, se pose la question de savoir si c'était Jésus dans sa nature humaine, aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'il poserait cet acte de la façon dont je veux le poser?
Donc, tu transmets le message que l'amour envers Dieu, l'amour envers son prochain, l'amour envers soi-même ne doit pas être une théorie. Ça doit être du vécu. Tu vois, c'est là où je suis d'accord avec ce défunt prédicateur Osborne qui disait que le christianisme est un style de vie. Ce n'est pas une religion, c'est un style de vie. Nous mettons en pratique dans notre vie de tous les jours le style de vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ circulait dans les rues de Jérusalem. Il accueillait tout le monde. Il se laissait approcher par tout le monde. Il ne rejetait personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, il aimait ces personnes-là. Qu'elles soient riches, qu'elles soient pauvres, que la personne soit en bonne santé, que la personne soit malade, que la personne soit lépreuse, ou que la personne vit une perte de sang depuis 12 ans, et le monde considère cette personne comme étant impure. Mais Jésus dit, non, je ne suis pas venu pour les personnes en bonne santé. Je suis venu pour les malades. Mon frère, ma sœur, nous sommes en train de partager sur le discipola, sur le disciple et la souffrance. Et la sœur Perpétue a introduit le disciple. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Il est impossible de parler de souffrance du disciple sans comprendre c'est quoi un disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui, comme nous avons dit, qui est né de nouveau, quelqu'un qui écoute les commandements de Dieu, qui les met en pratique. Mon frère, ma sœur, vous nous écoutez, je ne sais d'où, dans quelle partie du monde. La question qu'on aimerait vous poser, est-ce que vous êtes un disciple de Jésus? Est-ce que vous marchez avec Jésus? Jésus dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » Bref, ils auront communion. Dieu vous donne aujourd'hui l'opportunité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et devenir un disciple. De commencer votre formation de disciple, c'est possible aujourd'hui. Parce que Christ cherche des disciples. Il a dit, allez dans le monde entier, faites des disciples. Il n'a pas besoin des adhérents au club. Il n'a pas besoin de gens qui augmentent les cartes de membres d'église. Non, il a besoin des disciples. Un disciple, c'est l'ambassadeur de Jésus-Christ dans ce monde. Et si c'est cela votre désir, c'est très simple. Baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Prions, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens à toi. J'ai entendu ton message, j'ai entendu ton messager. J'ouvre la porte de mon cœur à Jésus-Christ. Je reçois Jésus-Christ aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel. Je prends l'engagement aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie à devenir un disciple de Christ dans tous les domaines de ma vie et tous les jours de ma vie. Merci pour ton pardon, ton amour et ta grâce. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, le disciple et la souffrance. Toujours avec la servante de Dieu, Marie Perpétue Mukulu. Que Jésus continue de vous bénir. Que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.